Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin et merci de nous écouter partout. Vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières, sur www.radiocapi.net. Nous allons parler aujourd'hui du recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo, un enjeu clé pour des politiques publiques efficaces. On en parle avec le professeur Eliwo Akoto Jean-Pierre, directeur adjoint chargé de l'enseignement à l'école des sciences de la population et du développement à l'université de Kinshasa. Il est démographe. Professeur Eliwo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci beaucoup.
Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler du tourisme médical ou le tourisme de santé, opportunités ou risques pour les patients congolais qui doivent se rendre en Inde, en Afrique du Sud, en Turquie ou en Europe pour recevoir, pour bénéficier d'une prise en charge correcte, par rapport à certaines pathologies. On en parle dans la deuxième partie de cette émission à 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à ce programme, le standard est ouvert, composez les 085 42 11 547. Sylvain Baugueré assure la mise en onde de cette émission, ensemble avec Paul Badianyama. Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission. Esther Mambote et Jonathan Chimanga s'occupent de live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Bien, nous parlons à présent du recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Il est difficile de planifier le développement d'un pays sans données fiables sur sa population. Depuis plus de 40 ans, la RDC fonctionne encore sur des estimations avec des chiffres qui varient fortement. Selon les sources, certains disent que le pays compte 90 millions d'habitants, pour d'autres c'est 110 millions. On est toujours sur des projections sans fondement solide. Alors pour y remédier, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, prépare le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, une étape cruciale pour mieux connaître les réalités démographiques du pays et orienter les politiques publiques. Il est important de bien connaître la population, ses caractéristiques, son emplacement, ses besoins, afin de planifier le développement. Alors comment évoluent les préparatifs de cette opération de grande envergure? Quels défis et quelles perspectives? On en parle aujourd'hui avec le professeur Eliwo Akoto Jean-Pierre, qui est démographe et directeur adjoint chargé de l'enseignement à l'école des sciences de la population et du développement à l'université de Kinshasa. Professeur Eliwo Akoto, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, la première question est celle de savoir, le recensement, c'est quoi au fait?
Le recensement, c'est une opération d'envergure nationale qui consiste à collecter des informations sur la population, par exemple ici de la RDC, c'est-à-dire sur chaque individu, pour savoir là où il est, ok, où ils vivent, quel est leur âge, la répartition et tout ça. Donc c'est sur l'ensemble de territoire. Mais quand on dit recensement de la population, on s'occupe aussi de l'habitat. Souvent, on oublie aspect habitat.
Habitat, ouais.
Donc, pour voir un peu où se trouvent les logements, où se trouvent les bâtiments et les bâtis. Donc, c'est très important. Ça suit certaines normes internationales. C'est pour cela que, avant 1984, par exemple, il y avait ce qu'on appelait les recensements, mais c'était des recensements administratifs, qui étaient une mise à jour de fichiers de population. Alors qu'ici, on va aller visiter tous les ménages. Donc ça suit, j'ai dit, les normes. On commence d'abord, il y a différentes phases,
oui,
n'est-ce pas? Donc la première phase, c'est la phase préliminaire où on prend des contacts, où le gouvernement prend des actes, portant création, par exemple, ici, de bureau central de recensement. Okay? Une fois que cette phase préliminaire est terminée, il y a ce qu'on appelle la cartographie. Et donc, en ce moment-ci, on est en train de faire la cartographie puisqu'on a achevé la cartographie pilote. Ça consiste à quoi? À repérer, hein, les bâtiments, les logements et tout ça sur les cartes. L'avancée, cette fois-ci, c'est que cela ne se fait plus manuellement. On utilise les nouvelles technologies. OK, qui permettent d'avoir une vue, par exemple, aérienne, et qui permettent de localiser les bâtis là où ça se trouve. OK, et cette cartographie...
On fait recours aux satellites.
Aux satellites, technologies importantes, informatiques et tout ça.
Oui.
Et donc, par exemple, les agents qui sont sur le terrain sont équipés de tablettes, de smartphones, avec... des sources d'énergie, hein, puisque on a un problème d'énergie parfois chez nous,
oui, bien sûr.
Ok, des power banks et autres. Donc, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, et ils ont déjà fini d'ailleurs la phase pilote, c'est faire ces localisations. C'est important puisque on essaye de découper les territoires en petits morceaux qui permettraient à chaque agent, on en aura près de 144 000,
hein, agents.
Oui, recenseurs qui vont descendre sur le terrain et collecter les informations. Vous voyez, et après cela.
144 000.
1000 agents.
C'est beaucoup.
Mais c'est beaucoup. Et nous sommes un pays continent. ne l'oubliez pas, monsieur le journaliste.
Oui.
Pays continent, pays immense. OK? Et les recensements couvrent tous les territoires, ça
national.
Va aller, oui, jusque à des endroits le plus reculés. C'est pour cela, par exemple, lors du forum des affaires coutumières, ok, on a parlé, on a essayé de sensibiliser les chefs coutumiers, parce que sur le terrain, ce sont des gens qui connaissent les endroits d'accès difficiles et qui peuvent aider les agents pour arriver jusqu'au bout.
Oui. Donc, ils connaissent bien aussi leurs administrés.
Leurs administrés, ils connaissent tout. Donc, on doit s'appuyer aussi sur eux.
D'accord.
Alors, donc, les données que l'on va obtenir, ce sont des données à jour sur... C'est comme un instantané, une photographie, en fait, de l'ensemble de la population de la RDC. Je voudrais quand même porter une précision ici.
Oui.
Les individus qu'on recense ne sont pas nécessairement des Congolais. On recense tous les résidents sur le territoire de la RDC. Ça veut dire que même les étrangers qui sont sur notre territoire
seront aussi
recensés. On veut connaître les effectifs réels de la population dans chaque région, dans chaque province, dans chaque territoire, chaque village, chaque quartier de ville. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre le recensement avec l'identification des Congolais qui est le problème de l'ONIP,
oui, hein,
l'Office national d'identification de la population.
Oui.
Donc, le recensement, on recense, on dénombre tous les individus qui résident dans un espace donné.
Oui. Professeur Elio, ces deuxièmes recensements généraux de la population et de l'habitat intervient 42 ans plus tard. Il semble que le premier, c'était en 84. Pourquoi? Et pourtant, les recensements doivent avoir lieu tous les 10 ans, peut-être tous les 5 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour maintenant se décider à organiser cette opération?
Merci beaucoup. Question pertinente. En fait, comme vous l'avez si bien dit, la première opération de recensement scientifique a eu lieu dans notre pays en 1984, ok? Et effectivement, cette opération avait couvert l'ensemble du territoire. Hein, il n'y avait pas de challenge, par exemple, qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, où on va réaliser le recensement, mais avec une partie occupée par...
la rébellion.
Voilà, que nous connaissons là, de mauvais augure. Mais ce n'est pas grave. Oui. Donc, mais malgré cela, même cette partie-là sera couverte, on va en parler un peu plus tard. Hein, on va dire comment. Mm. Donc, en 1984, effectivement, cette opération s'était très bien déroulée. Mais le seul problème qui s'est posé, et beaucoup de gens ne le disent pas, mais moi, en tant que scientifique, je me dois de le dire, c'est que on n'a pas pu exploiter les données de ces recensements-là comme il faut, c'est-à-dire faire des analyses approfondies. C'est très important quand on fait un recensement, oui, les chiffres, mais les chiffres ne suffisent pas. Il faut faire parler des chiffres. Que les chiffres produisent la connaissance. Or, ce recensement de 1984 n'a été exploité qu'au dixième.
Seulement.
C'est le père de Saint-Moulin qui était démographe, qui m'a donné cours d'ailleurs,
okay,
qui a tiré un dixième de la population recensée en 1984 pour produire ce qu'il avait produit. Okay? Et nous avons fait des projections, nous avons fait des estimations sur base de ce un dixième. Donc, le recensement de 1984 est obsolète.
Dépassé. Complètement.
Et c'est pour cela que nous apprécions le leadership de notre président actuel, puisqu'il est un de ceux qui était en train de pousser pour la réalisation de ce recensement. On verra un peu plus tard dans cette émission,
oui,
hein, les engagements du gouvernement et qui permettent aux partenaires de nous accompagner.
Professeur Elio, quelle est l'importance? Dites-nous, en quoi le recensement est-il important?
Voilà. Le recensement est important à plusieurs égards, notamment pour la gouvernance politique. Je vais juste prendre quelques points. Okay? Dans la gouvernance politique, nous disposerons des chiffres, des effectifs précis, okay, par province, par territoire. Okay? Et ça va nous permettre de connaître le nombre de sièges, par exemple, qu'il faut au niveau de chaque province et au niveau de chaque territoire. Vous êtes sans l'ignorer, monsieur le journaliste, qu'en principe, le nombre de sièges, que ce soit à l'Assemblée nationale ou provinciale,
oui,
est déterminé par le poids démographique de chaque localité.
Tout à fait.
Okay? Donc ça va permettre d'avoir une bonne gouvernance, hein, dans ce domaine-là. Okay? Je ne dis pas qu'il faut associer ça au processus électoral, mais ça va permettre à la CENI, par exemple, de déterminer le nombre de sièges par province, le nombre de sièges par localité, par souci d'équité. À l'absence de ces données de recensement, par exemple, okay, il y a certaines provinces qui sont en fait désavantagées par rapport aux autres,
oui,
parce que leur poids démographique n'est pas reflété par leur présence dans l'Assemblée nationale ou provinciale. Ça, c'est premièrement.
Oui.
Deuxièmement...
Ça, c'est sur le plan politique.
Politique.
D'accord.
OK, on peut même, ça peut nous permettre de délimiter même des territoires.
Oui, d'accord. Okay?
Alors, sur le plan économique, OK, le recensement va nous permettre d'identifier les zones de croissance économique, OK, et des zones où, justement, qui sont frappés par la pauvreté, qui sont frappés par l'absence, par exemple, des infrastructures et autres. Donc, lorsqu'on va planifier le développement, on peut mettre l'accent sur ces zones où il n'y a pratiquement rien.
Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché.
Il n'y a pas de services sociaux de base, ça n'existe pas. Donc, ça va permettre une certaine équité sur le plan socio-économique. Vous voyez? Et je prends juste un exemple. L'exemple du transport à Kinshasa.
Oui.
Ce matin, nous avons encore souffert, hein,
des embouteillages. Oui,
mais vous savez, on dit, mais ce sont des estimations, que à Kinshasa, il y a environ 7 millions de déplacements, hein, par jour qui nécessitent un transport public.
7 millions par jour.
7 millions par jour.
Et vous voyez, toute la population de Kinshasa est estimée à combien, professeur?
Autour de, entre 18 millions et 20 millions.
Et
vous 20 voyez,
millions.
Nous faisons toujours des spéculations, alors que le recensement va nous permettre,
oui,
de connaître le chiffre exact. Vous voyez, lorsqu'on va réaliser le recensement, ok?
Oui.
on saura les chiffres exacts de besoins en transport public. Admettons que la réalité montre qu'au lieu de 7 millions, il faut peut-être tenir compte des 10 millions de déplacements par jour. Peut-être qu'on sera amené effectivement à construire ce que le président a inauguré, à accélérer peut-être la construction
des routes
de Kinshasa 2.
D'accord.
Kinshasa 2, décentralisé carrément. Vous voyez ? Donc c'est très important. Je reviens un peu sur le plan économique.
Un instant, professeur, avant d'y arriver, nous avons les auditeurs en ligne qui vous suivent et qui voudraient vous poser des questions. Célestin Maseki nous appelle depuis Kananga. Gentil Bassekwamba est également à Kananga dans la province du Kasaï central. Ismaël Mumpoy nous appelle de Lubumbashi. Célestin Maseki, bonjour, vous êtes à Kananga.
Bonjour, monsieur Jordi, Daniel Kachama, et je salue aussi l'invité qui est au plateau de la radio pratique.
Quelle est votre préoccupation, Célestin?
Vraiment, je salue encore cette initiative une fois de plus, parce que c'est une initiative noble. Pourquoi nous disons cela? Vous pouvez même imaginer depuis 1984 que le recensement avait été lié. On peut maintenant imaginer, c'est après combien d'années qu'on avait raté de faire le recensement. D'ailleurs, dans un pays bien développé, il faut qu'il y ait un recensement après une année. Mais
bon, on dit souvent c'est après 10 ans. Célestin, les spécialistes disent que c'est après chaque 10 ans.
Oui, après 10 ans, oui. On peut même maintenir les 10 ans, après les 10 ans. Mais si cette initiative est décelée par le président de la République actuelle, vraiment nous saluons cette initiative avec beaucoup d'estime.
Alors, Célestin, rapidement, quelle est la question? Quelle est la question pour permettre aux autres
Oui, ma question est celle de savoir, nous qui sommes ici au Kasaï central, dans la province du Kasaï central, est-ce que ces recensements, ils vont aussi descendre ici pour récupérer quand même quelques personnes ici au Kasaï central? Parce que moi aussi, c'est le thème, j'ai besoin aussi de travailler avec la République démocratique du Congo, avec un concernant. Les recensements. Donc, travailler comme un agent recenseur.
D'accord.
Comment est-ce que ça peut avoir une limite?
Bien, c'est ça votre préoccupation, voilà. Il veut travailler comme agent recenseur dans la province du Kasaï central. Gentil Bassekwamba, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour aussi à tous les invités de la radio Capitale Municipale. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Gentil?
Oui, merci de m'avoir apporté la parole. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale pour l'avenir de notre pays. Le recensement général de la population...
Merci de réduire le volume de la radio qui est à côté, parce que là, on a un retour désagréable à l'antenne.
Vous m'écoutez, non?
Non, il y a un...
Oui, je suis maintenant.
Merci de réduire le volume de votre récepteur, Gentil.
Je ne suis pas près de la radio. Au moins, je ne suis pas là pour pas améliorer.
Peut-être qu'il y a un autre auditeur qui a... qui a ouvert sa radio. Aidez-nous à régler ces problèmes. Je passe à Ismaël Mumpoy depuis Lubumbashi. Bonjour, Ismaël. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Allô? Bien, on va accueillir Lucien Moulungu depuis Waliré.
Lucien, bonjour, bonjour. Je suis Daniel Kacham, bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Capi.
Voilà, Ismaël est là. On vous écoute rapidement, quelle est la question?
Vous me suivez?
Oui, 5 sur 5, allez-y. Apparemment, il y a quelqu'un qui a... Est-ce qu'on peut fermer les lignes des autres pour éviter ce bruit à l'antenne?
C'est une bonne chose pour le recensement.
Oui, allô?
Notre grande inquiétude est la question dont nous nous posons.
Oui.
C'est de savoir qu'est-ce qui explique un peu le retard qu'a connu la République pendant que tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'il n'y avait pas aussi l'organisation de recensement de la population. Soit c'était pour la faiblesse de l'administration ou c'était juste un manque d'organisation congolaise. Si aujourd'hui l'initiative est là, comment on peut passer de la théorie vers la pratique? C'est que le recensement de la personne, parce que le débat a pris 10 jours, bien qu'aujourd'hui il y a ceux qui contestent, parce que toute personne aujourd'hui en RDC, il ne voit pas des choses de la bonne manière pour l'avancement de ce pays. Si on cite pour la révision de la constitution, ils se disent c'est pour les mandats. Si on cite aussi pour le recensement de la population, ça prendra du temps, ça va favoriser le président de rester au pouvoir. Ça, c'est un cas. De notre côté, la population que nous sommes ou les intellectuels que nous sommes, si nous agissons d'une bonne manière, c'est de savoir comment cette étape aujourd'hui, qui semble être décisive, doit être organisée. Et quels seront aussi les obstacles à surmonter pour que cela soit une réussite en vue de recenser toute la population congolaise. Tenez par exemple pour ceux qui s'inquiètent d'un territoire à un autre où il y a tel ou tel conflit. La fois passée, nous avons dit pourquoi nous ne pouvons pas avoir la confiance que dans tel territoire
oui,
où il y a
bien.
Les conflits,
Ismaël, là, quel est... pouvez se calmer. Alors, est-ce que vous avez une question précise que vous adressez au professeur Eliou?
Les personnes que nous sommes, parce que nous sommes enviés d'être recensés et connaître les nombres exacts que nous sommes en République démocratique du Congo, nous doter une carte nationale de la RDC. C'est ça une chose pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais comment concrètement ils vont procéder? Par exemple, nous avons deux villes telles que Kinshasa, Lubumbashi, des grandes villes, pas des villages, ou au niveau des villages, parce qu'il y a des organisations que la ville a organisées. Il y a les chefs de cellules, les chefs de riz, les chefs de blocs et tout cela. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, cette organisation va faire comment dans des grandes villes telles que j'ai citées ici? Ils
D'accord.
vont procéder comment?
Comment? Merci
dans
beaucoup.
Villages, nous avons des chefs du village.
Oui.
Ils auront quelle part de responsabilité pourvu que cette pratique ne puisse pas prendre beaucoup de temps, que ça prenne par exemple 2 ans? Ou au total, le recensement va prendre combien d'années, combien de mois et combien de jours? C'est ça ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.
Bien, merci. Lucien Moulungu, Aliré nous a écrit sur Facebook, il dit ceci, mais en période de guerre, ce processus, les recensements étaient mort-nés parce qu'il va favoriser la balkanisation du territoire occupé. Ça, c'est le point de vue de Lucien Moulungu et il n'a pas indiqué à partir de quelle ville. Professeur Eliou, vous avez la parole.
Ok. Merci beaucoup et je remercie... les auditeurs hein, pour les questions posées. Donc je vais essayer de répondre à leurs préoccupations. Okay. Pour le premier intervenant, hein, je crois que c'est Célestin Masseki, hein, donc il peut se tranquilliser,
oui.
Hein, puisque quand j'ai dit tout à l'heure, on va engager à peu près 144 000 agents qui seront déployés dans chaque province et territoire et tout ça, on ne va pas amener les gens de Kinshasa. On ne va pas amener des gens qui sont dans les chefs-lieux pour aller jusqu'au village. En fait, le recrutement se fera sur le plan local. Okay? Une fois que le recrutement est opéré, on va former ces agents-là, puisque comme je l'ai dit, on va utiliser vraiment une technologie avancée hein, pour que quand ils seront sur le terrain, okay, ils puissent se débrouiller efficacement. Ok, donc le recrutement se fera sur le plan local. J'espère que j'ai répondu à la préoccupation de Monsieur Célestin Masseki.
Bien.
Ok. Alors il y a c'est Daniel Kachama que j'ai saisi. Hein. Je ne sais pas si c'était
Ismaël. Non, Daniel Kachama, c'est moi. Alors.
Ah donc Ismaël
Mopoi.
Ok. Mopoi
de Lubumbashi.
Ismaël Mopoi. Qui a des inquiétudes. Donc il se demande pourquoi il y a eu beaucoup de retard entre 1984 et aujourd'hui.
Et aujourd'hui, voilà.
Il y a eu c'est plusieurs faits, notamment politiques. Vous voyez, et ne l'oublions pas, les conflits, les guerres et autres ne datent pas d'aujourd'hui chez nous ici. Et ensuite, OK, comme je l'ai dit, il fallait une certaine volonté politique. Ne l'oublions pas qu'en 1984, on était sous le régime encore des partis. Hein, unique.
Parti unique.
Donc, MPR. Et donc, en ce moment-là, on ne voyait pas peut-être vraiment la nécessité, même si c'est sous ce parti-là qu'on a organisé le recensement de 1984. Et par la suite, ce que je peux dire, c'est fut une question de volonté politique. Puisque sous le leadership du président actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, nous voici, nous sommes en train d'y aller et je réponds en même temps à la préoccupation de
Ismaël toujours.
C'est toujours Ismaël qui parlait en termes de combien d'années, combien de jours et tout
ça. Oui, ça va prendre combien de temps, opération-là.
Nous avons déjà achevé la cartographie pilote, ok, et maintenant. Au cours de 3, 4, 5 mois qui suivent, on achèvera la cartographie pour l'ensemble du pays. Une fois que la cartographie est achevée, on va programmer les dénombrements, c'est-à-dire les agents recenseurs vont descendre sur le terrain et d'ici, en tout cas, le milieu de l'année 2027, nous aurons déjà les résultats. Parce qu'on utilise cette technologie qui nous permet d'écourter les échéances. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Les résultats, nous allons les connaître certainement au milieu des années 2027. Il nous faudra...
Donc, l'année prochaine.
L'année prochaine. Parce qu'il nous faudra éviter que ça puisse correspondre au début du processus électoral.
Électoral en 2028.
Parce que sinon, il y aura certainement beaucoup de contestations des résultats de la part des autorités. On
ça va créer la confusion.
Dans d'autres pays et tout ça. Et je réponds aussi à l'autre préoccupation qu'il avait. Le recensement ne permet pas d'identifier les individus. Même si, dans le recensement, on peut savoir qui est étranger et qui est national congolais.
Qui n'est pas.
Oui, mais ça ne va pas nous permettre d'établir les cartes d'identité. Non, puisque au niveau du recensement, nous voyons des nombres de données agrégées. Alors que la CENI ou l'ONIP va travailler avec les individus. Ok ? Donc, le recensement peut alimenter l'ONIP en ce sens que il peut, par exemple, informer l'ONIP sur le nombre de personnes qui se sont déclarées congolaises et là où ils habitent. Et l'ONIP saura, par exemple, qu'à Kinshasa, nous aurons besoin d'établir autant de cartes d'identité. Vous voyez ? Donc, pas l'inverse. Et la même chose que j'avais dit pour la CENI. La CENI saura le nombre de sièges à déterminer, mais pour l'élection, la CENI continuera...
L'enrôlement des électeurs.
Enrôler. Voilà, merci. Et donc, la dernière ou le dernier intervenant a parlé de la balkanisation.
Voilà, balkanisation.
Moulungu, comment il s'appelle?
Oui. C'est plutôt Lucien Moulungu qui dit, on est en période de guerre, surtout dans la partie est du pays. Est-ce que, d'après lui, le recensement était mort-né parce qu'il va favoriser la balkanisation du territoire occupé?
Oui.
Professeur,
on va les rassurer. On va les rassurer. Il n'y aura pas balkanisation des territoires occupés puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le recensement va couvrir tous les territoires nationaux, même la partie sous occupation.
Comment ça va se passer?
Voilà, merci. Donc, nous avons des technologies. Nous allons nous baser sur certains partenaires, notamment les humanitaires qui sont neutres dans des territoires qui sont occupés, pour que ce travail puisse être fait à travers ces partenaires-là, notamment. Ok? Et j'ai dit, pour les régions difficiles d'accès, la technologie nous permet, à partir de vues aériennes, de faire des estimations plus ou moins correctes des effectifs des populations qui vivent dans ces zones-là. Donc on va mettre en place tout l'arsenal technologique et s'appuyer aussi sur nos partenaires qui sont sur le terrain pour que ces territoires qui sont sous occupation soient aussi l'objet du recensement. Donc de ce côté-là, il n'y aura vraiment pas de problème et je ne pense pas, en tout cas à ma connaissance, en tant que scientifique, qu'il y aura balkanisation du pays.
Nous parlons du recensement général de la population et de l'habitat en RDC, un enjeu clé pour des politiques publiques efficaces. Vous voulez intervenir dans cette émission, composez le 085 42 11 547.
Parce que les problèmes font partie de votre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans Capi Service du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. On en parle avec le professeur Eliou Akoto, Jean-Pierre, qui est démographe et directeur adjoint chargé de l'enseignement à l'école des sciences de la population et du développement à l'université de Kinshasa. Professeur Eliou, vous étiez en train de parler de l'importance, de démontrer l'importance du recensement. On était maintenant sur le plan économique.
Voilà. Alors, je voulais donner un exemple tout simple. Imaginons-nous que dans les questionnaires de recensement, on demande à chaque personne recensée si elle possède un smartphone ou pas. Vous voyez ? Et donc, cette information-là simple, ça peut permettre de déterminer les zones où les besoins se feront le plus sentir en téléphonie mobile. Et cette information peut aussi informer la FEC, notamment, Fédération des entrepreneurs du Congo, ou des entreprises qui s'occupent des téléphonies mobiles, de savoir où aller investir. Vous voyez, l'information simple. Et ça montre l'importance du questionnaire. L'utilisation des données commence par l'élaboration des questions. C'est-à-dire, quels sont nos thème, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est ça. À la fin, oui, on fera les analyses, mais ça commence en amont. Par exemple, les partenaires viendront lors de l'élaboration du questionnaire, prenons quelqu'un comme l'UNICEF, et cherchera à connaître combien d'enfants vont à l'école.
Dans cette zone précise.
Et combien ne vont pas à l'école. Par exemple, aujourd'hui, on fait une estimation de 7 millions d'enfants qui, en âge de scolarisation, qui ne sont pas scolarisés. Mais les recensements nous diront peut-être que c'est 20 millions. Vous voyez ? Et non seulement il va nous dire c'est 20 millions, mais il va nous dire où ces enfants-là se trouvent. Et comme ça, les investissements qui vont se faire ne se feront pas à vue.
Et on verra aussi combien d'écoles il y a dans cette région-là.
Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Boulungu, donc ce que la cartographie pilote nous a montré.
Oui.
Il y a des zones où il y a une forte concentration d'écoles dans une zone, alors qu'ailleurs c'est le vide total et la population est là. Vous voyez, le recensement va permettre de corriger, si vous voulez...
De créer un équilibre.
Voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est le mot. De créer un équilibre pour une répartition
équitable
entre les différentes localités.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons un auditeur depuis la ville de Kikwit. Il s'agit de Bienvenue Kikala. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour, professeur.
Bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Je crois, moi je ne ferai pas l'exception par rapport à tout le monde d'encourager cette initiative. Mais moi je me pose juste une ou deux questions. Je me dis, dans notre pays, il y a les déserts administratifs. Le professeur a pris l'exemple du territoire de Boulongo. Moi je peux prendre le même exemple, où il y a des endroits où aucun service étatique existe. Dans des cas d'espèce, qu'allons-nous faire ou comment le service de recensement va s'y prendre pour que les populations qui se trouvent dans des zones où j'appelle des aires administratives, qu'elles aussi trouvent leur compte. Aussi, moi, j'ai une autre inquiétude. Parmi les raisons évoquées pour que le recensement n'ait pas lieu, on parle des finances. Pourquoi ne pas, du coup, combiner l'identification de la population et le recensement? Parce que lorsqu'on va scinder les deux activités, on risquerait demain ou après-demain de nous dire il y a un problème de trésorerie, l'État ne sait plus prendre ses responsabilités à main pour organiser ces activités-là.
Bien, merci. Bienvenue, Kikala. Gentil Bassokwamba de Kananga. Oui, Gentil, vous êtes de nouveau en ligne, on vous écoute. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Désolé, il va certainement vous rappeler. Professeur Eliou.
Oui. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Kikala, pour la question. Ah oui, c'est très important. Il y a effectivement dans notre pays ce qu'on appelle des déserts administratifs, c'est-à-dire il n'y a aucun service et tout ça. Et effectivement, comme je l'ai dit...
Donc il y a des territoires qui ne sont pas administrés.
Non, où il n'y a même pas de services sociaux de base.
Oui.
Okay, le pays est tellement grand. Et le recensement va nous permettre, je me répète là, d'identifier ces zones-là où vivent des personnes considérées comme vulnérables, qui n'ont accès à aucun service social de base, que ce soit l'enseignement, que ce soit la santé et autres. Donc on ira partout. Une fois qu'on a identifié ça, laissez-moi reprendre l'un des propos, mais je paraphrase, du président de la République hier à la conférence des gouverneurs. Il a dit ceci, il a exhorté les gouverneurs à faire de la décentralisation un moteur pour le développement. Voyez, si on arrive au niveau des territoires, okay, on saura qu'effectivement, à travers les recensements, dans telle zone, aucun service administratif n'existe, aucun service social de base n'existe, et donc, avec cette décentralisation, on peut donc combler ces vides-là. On peut rééquilibrer les choses. Vous voyez, donc le recensement, vraiment c'est un outil de bonne gouvernance et de planification, de développement.
De développement. Donc il y a un lien étroit entre le développement et les recensements, entre le recensement et les développements.
Tout à fait.
Maintenant la question par rapport au financement, c'est d'après le ministère du plan, il faut mobiliser 192 millions de dollars pour organiser cette opération, et vous le dites déjà que les équipes travaillent et d'ici l'année prochaine, en 2027, on aura déjà tout fini. Est-ce qu'on a tous les moyens nécessaires pour organiser cette vaste opération?
Merci. Et cela me permet de faire un peu un retour en arrière, puisqu'il y avait le problème de mutualisation des ressources qui a été évoqué par Bienvenue Kikala, qui demandait pourquoi ne pas associer les opérations de l'ONIP, CENI et recensement.
Voilà.
Ça, c'est, on a essayé de faire ça. Il y a eu un début de processus de mutualisation de ces trois organes. Mais ça aurait été une erreur fatale. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ces opérations sont disjointes en fait. Ce sont des opérations à ne pas faire conjointement. Ok? Parce que ça risque d'entraîner des biais. Si on associe le processus électoral avec le recensement, je l'ai dit, croyez-moi, on va contester ces chiffres. Parce que il y a des zones qui sont bénéficiaires, entre guillemets, d'un nombre excessif de sièges, notamment à l'Assemblée, par rapport à leur poids démographique. Et donc, les ressortissants de ces endroits-là contesteront des chiffres.
Ils risqueront de contester des chiffres.
Le financement, par exemple, c'est très important. Le gouvernement a déjà engagé 30 millions de dollars qui ont été transférés. Ce n'est pas au niveau du Trésor, transférés sur le compte de l'UNFIA, qui est l'organe technique et financier.
Le Fonds des Nations Unies pour la population.
Okay? Oui. Et nous avons organisé, il y a à peine deux jours,
la table ronde des bailleurs
de fonds.
Oui.
Et c'était, pour moi, une activité magnifique pour notre pays, parce que les bailleurs de fonds ont fait des pledges, c'est-à-dire ont fait des annonces jusqu'à près de 180 millions de dollars déjà.
Donc
on a bouclé le budget.
Oui,
donc il n'y a pas de préoccupation à avoir à ce niveau-là. Avec cet engagement de gouvernement, comme on dit, lorsque le pays bouge, les bailleurs suivent.
Ils suivent le mouvement.
Voilà. Donc il n'y aura pas de problème de financement, je ne pense pas.
D'accord. Gentil Bassakwamba, vous êtes, il est en ligne. Gentil, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale à ce moment. Bonjour aussi à l'invité.
Allez-y, on vous écoute. Il y a quelques soucis, des petits soucis avec votre ligne. Allez-y quand même.
Oui. Merci de m'avoir accordé la parole. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale pour l'avenir de notre pays. Le recensement général de la population, il est important de rappeler qu'il est très difficile, voire impossible, de mettre en place des politiques publiques efficaces sans connaître avec précision sa population. son ordre, sa répartition, ses conditions de vie et ses besoins réels. Or, depuis plus de 40 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, ne dispose pas de données démocratiques fiables. Nous fonctionnons sur base d'estimations parfois contradictoires allant des moments conclus de la vision d'habitants. Cette situation constitue un véritable développement.
Gentil, en tout cas, désolé, votre ligne, on ne vous capte pas très très bien. Je vais peut-être vous demander d'envoyer-nous peut-être un audio et on pourra l'exploiter.
Je vous suis très bien là, je suis prêt à terminer.
Bon, allez-y rapidement alors, parce que nous on vous capte pas très bien.
Ok, à notre avis, la réussite de ce repassement dépendra des plusieurs éléments. Une bonne participation de la population, une formation rigoureuse des agents responsables, l'utilisation des technologies modernes, et surtout la transparence dans la gestion et l'administration des données. Car ce recensement ne doit pas être une simple formalité administrative, mais un véritable outil de développement pour notre pays. À cet effet, permettez-moi de poser quelques questions à notre invité. Où en sommes-nous concrètement dans les préparatifs de ces recensements? Deuxième question. Le financement de cette opération est-il entièrement sécurisé? Deuxième question, quelles mesures sont prises pour garantir la fiabilité et la transparence des données collectées? Cinquième question, comment comptez-vous sensibiliser les populations, notamment dans les zones rurales ou enclavées? Et enfin, comment le résultat des financements serait-il utilisé concrètement pour améliorer les conditions de vie des Congolais?
Merci beaucoup, gentil Basso Kwamba depuis Kananga. On va accueillir Jeannot Louembwe Kitenge depuis Kolwezi, dans le Lualaba. Bonjour Jeannot Louembwe. Jeannot Louembwe, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro, Jeannot. On ne vous entend pas.
Oui, bonjour Monsieur Jody, vous entendez bien là?
Oui, maintenant c'est bon, allez-y.
Oui, je salue l'invité et les auditeurs. Hein. Merci de faire sur le thème. J'aimerais aussi dire que si depuis 1984, il n'y a pas eu de recensement, de deuxième, je ne sais pas, troisième, et la suite, c'est parce que nous vivons dans un pays à problème. Hein. Nous avons plusieurs urgences, plusieurs problèmes qui sont que nous connaissons, les problèmes sociaux que nous connaissons chaque jour. Parmi lesquels il y a aussi des actions de l'Est à l'Ouest que nous connaissons, qui fracturent un peu la République. Ce qui fait que l'attention est tournée vers. Est ailleurs. On ne parle plus du recensement. Vous allez voir que le pays qui organise le recensement après 5-10 ans, ce sont des pays de la tranquillité où il y a la. Il fait beau de vivre, hein, contrairement au nôtre. C'est un peu ça la raison. Mais je vais ici poser la question au professeur. Bien que faisons le recensement, c'est bien, c'est un facteur de développement. Monsieur le professeur, ne trouvez-vous pas qu'il serait mieux que nous fassions, nous Congolais, organisions le recensement quand on aura un arrêt, quand on aura à finir ce qu'il y a comme agression, ce qui permettrait aux Congolais, ces 12 millions, ces 134 millions de Congolais, de travailler dans la quiétude, dans la tranquillité. On prenait au risque de ne pas se faire tuer. Vous risquerez, imaginez, de descendre sur le terrain de combat, demandant à ceux qui sont neutres, bien sûr, de faire ce travail pour voler. Mais rentrant ou donnant les rapports comme ça, on bombarde encore, on tue encore. On n'aura pas la précision par rapport au nombre exact de Congolais. Il y en a qui naissent, qui meurent, dans des conditions de nous comparatives, qui sortent. Ne trouvez-vous pas qu'il serait mieux, professeur, que nous trouvions la réunification du Congo pour que nous parlions du recensement? Parce que nous avons plusieurs priorités, professeur. Voilà ma petite question.
Merci, Jeannot Louembwe, depuis le Lualaba, à Kolwezi. Professeur Eliou Akoto, vous avez la parole.
Ben, merci beaucoup. Je réponds d'abord à Monsieur Gentil. Mais en fait, tout ce qu'il a mentionné là, c'est ce qui est en train d'être fait dans le cadre de ces recensements. Ok, donc le financement, je viens de le dire, a été bouclé. et nous avons fini la première phase préliminaire et préparatoire en cours, mm-hmm. et ensuite on descendra sur le terrain des dénombrements. Donc il n'y aura pas de problème. Nous sommes très avancés dans le processus de réalisation de ces recensements. Donc il peut se tranquilliser.
Il y a l'achat, il faut acheter des smartphones, les tablettes, tout ça.
Donc j'ai dit le budget est pratiquement bouclé. Si oui. j'ai dit le budget est bouclé, mmh. donc tous ces équipements et autres et tout ça vont être acquis. Hein, il y a déjà une partie hein, qui se trouve déjà au niveau du bureau central de recensement. Donc d'accord. il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense vraiment que le processus va aller, hein, l'opération, jusqu'au bout. Par contre, Monsieur Jeannot Louembe de Kolwezi a soulevé quelques problèmes. C'est vrai que la stabilité du pays, c'est un élément important aussi hein, pour mmh. l'organisation de recensement. Si on regarde le pays qui ont respecté les calendriers de recensement, donc décennal tous les 10 ans, hein, ce sont surtout les pays qui sont stables.
Mais et développé.
Développé, n'en parlons même pas. Et donc, je ne pense pas qu'il faille retarder cette opération à cause de la situation de notre pays à l'Est. Mmh. Vous voyez, nous avons ce besoin urgent, ok, pour connaître l'effectif de la population. On sait pertinemment bien qu'à l'Est, nous allons obtenir des chiffres, ok, plus ou moins correct, mais ça nous permettra quand même d'avoir une idée de l'ensemble de la population que nous avons. Ok? Et comme je l'ai dit, les humanitaires qui sont sur le terrain, ils ont l'habitude de travailler avec toutes les parties prenantes au conflit, hein, sans problème. En tout cas, sinon, on apprendrait qu'ils sont en train d'être tués, massacrés, autres et tout ça. Ça n'arrive pas. Mais qu'un incident puisse avoir lieu, oui. Mais donc, moi, je pense effectivement qu'avec la technologie que nous allons déployer, avec l'appui que l'on va recevoir des personnes qui sont sur le terrain occupé, l'opération, en tout cas, sera fiable.
Mmh. Et Gentil s'interroge, qu'est-ce qui va assurer la transparence et la fiabilité des données qui seront collectés.
Oui. Et nous avons mis en place un panel, si je peux m'exprimer ainsi, d'experts en recensement international indépendant hein, qui va suivre ce processus jusqu'au bout. Donc ça va garantir, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle la qualité assurance. Moi-même qui vous parle, j'ai fait partie hein, de ce panel-là. Donc, nous allons suivre ces opérations-là pas à pas et éventuellement corriger les tirs. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres experts internationaux. Il y a déjà quelques-uns, d'ailleurs, qui sont ici sur place. Donc, pour s'assurer que ce qui est en train d'être planifié pour le recensement okay, sera mis en œuvre de façon efficace, suivant les normes que j'ai mentionnées internationales.
Donc, cette fois-ci, le recensement aura bel et bien lieu parce que le gouvernement a déjà démontré sa volonté en mettant à la disposition des partenaires 30 millions de dollars la Banque mondiale et les autres partenaires s'y sont déjà engagés à financer cette opération. Donc, tous les moyens sont déjà là. Alors, maintenant, comment se fera le recrutement des agents et qui vont travailler sur le terrain, ça va nécessiter une formation, comment vous allez les recruter, et puis voilà, comment se fera les déploiements, etc. Mmh. Sur le plan pratique, professeur, oui. Et même l'échantillonnage, comment ça se fera, les questionnaires, l'élaboration des questionnaires, etc.
Voilà, merci. Ça me permet de réclarifier encore les choses. Ok. Donc, comme je l'ai dit, on va recruter les agents localement. Mais une fois qu'ils sont recrutés, on va les former, ok? Donc ils recevront une formation hein, pour comment ils vont travailler une fois qu'ils sont sur le terrain. Par exemple, pour rebondir sur la dernière question, il y aura ce qu'on appelle les zones de dénombrement. La cartographie permet de découper le territoire en différents morceaux. Et chaque agent qui sera formé saura que moi, je vais travailler dans la zone numéro 1, par exemple. Mmh. Hein, ici à Kinshasa, si on prend par exemple sur le plan des districts, hein, Tchangou 1 ou Tchangou 2, Tchangou...
Tchangou...
Voilà, tout à fait. Oui. Et donc, un agent saura, ok, avec les données satellitaires et autres, tout ça, géoréférencé, comme on dit, la géolocalisation,
oui.
Hein, va aller sur chaque logement, chaque habitation, hein, pour faire le recensement et prendre directement le truc de géolocalisation. Donc, il n'y aura pas de problème sur ces niveaux-là. Les zones de développement permettraient à chaque agent de savoir là où il doit aller pour dénombrer les personnes.
Et si un agent n'a pas travaillé, est-ce qu'à partir de la centrale, on peut le retracer,
tout
savoir
tout à fait. Voilà l'avantage de l'utilisation donc, des numériques, de l'utilisation de cette technologie. Avant, lorsque l'agent était sur le terrain, il fallait que... On travaillait sur les papiers d'abord. Les superviseurs devraient venir pour voir la cohérence. Ici, on a déjà programmé les tout. Donc l'agent va aller avec sa tablette ou smartphone. Lorsqu'il va commencer à faire des enregistrements directement en soft, il y a déjà des programmes qui vont détecter s'il y a des erreurs et tout ça et qu'il doit corriger sur les champs. Alors qu'avant, il fallait aller retrouver d'abord le superviseur et puis revenir. Vous voyez, donc il y a un gain de temps qui va s'opérer automatiquement.
Et maintenant, par rapport à l'échantillonnage, le questionnaire, vous y travaillez déjà.
Le recensement n'a pas besoin d'échantillonnage, puisqu'on va recenser l'ensemble de la population.
D'accord.
L'échantillon, donc, on tire un petit groupe. Non, le recensement, c'est l'ensemble. Donc,
pas besoin
le questionnaire est déjà fini et tout ça. Donc, vraiment, une fois que la cartographie finit, ils vont descendre sur les terrains.
D'accord.
Moyennant recrutement, formation... Et il y a le suivi. Et je vous ai dit aussi, n'oubliez pas, des groupes d'experts qui sera là aussi pour suivre et garantir que nous sommes toujours dans la bonne direction.
Alors comment maintenant faire pour obtenir l'adhésion de la population? Parce que les recenseurs peuvent arriver dans un quartier, les gens ne coopèrent pas ou ne vous donnent pas des informations vraies.
C'est là où le rôle notamment des chefs de quartier, le rôle notamment des chefs coutumiers de terrain est important. Et on va passer, on a déjà commencé par une phase qu'on appelle de sensibilisation de la population. Il faut que la population prenne conscience de l'importance du recensement dans leur vie. Si on dit à quelqu'un que voilà, le fait qu'on va venir faire ce recensement-là permettrait par exemple d'améliorer notamment les dessertes rurales, les routes.
Les routes.
Automatiquement, c'est pour son bien-être.
Tout à fait.
Et on va obtenir l'adhésion. Et si les chefs coutumiers, qui sont quand même très très écoutés par leur population, les sensibilisent pour dire il faut bien accueillir. C'est pour cela qu'on va reposer sur eux. Parce qu'ils garantiront quelque part la sécurité.
Professeur Elio, on n'a plus de temps. On a épuisé les temps qui nous étaient impartis. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le professeur Elio Akoto, Jean-Pierre, démographe et directeur adjoint chargé de l'enseignement à l'école des sciences de la population et du développement à l'université de Kinshasa. C'était un plaisir de vous recevoir.
Mais moi aussi.
Je pense que vous allez encore revenir,
professeur. Bien sûr, toujours disponible. Merci beaucoup.
D'accord.
Merci à vous.
À la prochaine, professeur.
Merci.
Bien. Tout à l'heure, nous allons suivre les informations et ensuite, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission de La Vie au quotidien. Et nous parlerons du tourisme médical.
Radio Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.